à 23 pas du mystère. Balade à travers le polar, la science-fiction et l'aventure, hors des sentiers battus. À 23 pas du mystère.
Auditeur de Calanma Radio, bonjour. Vous écoutez à 23 pas du mystère, votre émission mensuelle consacrée au polar et un petit peu aussi à la science-fiction. Devinez quoi, c'est le printemps, la plus belle saison de l'année, donc on a tous la forme, la sève jaillit de partout, la vie redémarre et tout va bien. J'ai décidé cette année radiophonique de faire une métaphore de, basée sur les saisons à chaque début d'émission, donc je m'y tiens. Mais passons aux choses sérieuses. Maître Jérôme commence à dire, il n'est pas très sérieux ce maître de cérémonie, mais bonjour Miss Lemon, comment vas-tu?
Bonjour.
J'oublie toujours Miss Lemon, quel macho, c'est affreux.
Surtout qu'on a quand même cette heure dédiée aux femmes, donc exact. Là je dois reconnaître que...
Ah, tu viens de spoiler le sujet, et Maître Jérôme n'aime pas qu'on spoil, attention,
ouais, mais Miss Lemon. Mais effectivement ça démarre mal. Ouais.
C'est ta faute, ouais. C'est pas moi.
Bon, merci Miss Lemon, le sujet donc bonjour, c'est les femmes... Il n'y a que ça qui m'intéresse, comme disait Georges Valensky autrefois. On t'écoute, Maître Jérôme.
Alors, avant de parler de femmes, je vais commencer par faire un peu de publicité gratuite pour une conférence qui sera donnée à la médiathèque de Beaujeu, donc la capitale historique du Beaujolais, je le rappelle.
Exact, exact.
Donc, cette conférence, ça sera le 27 juin 2026 et elle traitera de l'histoire de la revue Métal Hurlant, donc,
ah ouais,
dont nous
chouette,
avons déjà parlé dans cette émission. Mais cette fois, elle sera animée par Bruno Moulary, qui est bibliothécaire à la médiathèque Les Singuliers de Belleville, en Beaujolais. Également.
D'accord. Tu mettras ça dans le podcast.
Ouais. Alors, moi, j'ai eu déjà la première représentation de la conférence. Donc, je peux vous dire qu'elle dépasse, en fait, l'histoire de Métal Hurlant.
D'accord.
En resituant cette revue dans le paysage de la bande dessinée des années 60-70. Et en présentant un certain nombre de dessinateurs importants, Moebius, Druillet, Jean-Claude Forêt, Paul Gillon, etc. Et wow. Qu'elle est animée par un passionné de bande dessinée qui connaît parfaitement son sujet. Donc on vous recommande vivement d'aller vous déplacer à Beaujeu pour aller écouter cette conférence de Bruno Moulary. Alors, en ce mois d'avril, comme nous le rappelait Patrick, eh bien, nous allons consacrer notre émission aux femmes et nous allons parler uniquement... D'autrice.
Moi j'aime bien autrice, mais on peut dire les deux.
Et de personnages féminins, et le plus souvent même des deux en même temps. Alors on va tolérer quand même quelques hommes. On va commencer par moi-même qui vous parle.
Et puis Miss Lemon s'est débrouillée toute seule pour faire l'émission.
Et uniquement nos deux chroniqueurs, Geek Patrick et Nicolas Verdant, qui sont également les bienvenus dans cette émission. Mais
tout
ça sera
la
seule présence masculine ce soir. Comme pour la pollution le mois dernier, je vous propose une petite définition du sujet que nous allons aborder.
Pas simple.
Patrick adore
les
ça.
Les femmes, qu'est-ce que c'est?
Alors, la femme, c'est un être humain de sexe non masculin, d'après Pierre Desproges, dans son dictionnaire superflu.
Okay. Référence à Pierre Desproges.
Ou bien, si vous préférez, c'est une lumière qui éclaire mille chemins, comme le disait George Sand. Voilà, à vous
qui était, il faut le savoir, une femme. Attention, hein, George Sand.
Alors, nous allons au programme. Je vous ferai découvrir une collection triplement féminine. Vous allez comprendre pourquoi. Miss Lemon nous présente une version débridée de la Miss Marple d'Agatha Christie.
Wow.
Et en même temps, un doublé, une chasseuse de primes aux États-Unis dans les années 1990. Geek Patrick, lui, nous présentera un roman d'une romancière française qui est paru en 1983. Je ne spoile pas, le suspense est à son comble. Et Nicolas Verdant vous proposera de faire un tour de voiture avec une détective privée états-unienne. C'est parti donc pour une petite heure à 23 pas du mystère.
À 23 pas du mystère.
Calade. Je profite de la parution récente d'un ouvrage consacré aux femmes de la série noire, qui est paru il y a quelques mois, pour vous présenter une collection qui est tout à fait en avance sur la célèbre collection animée par Marcel Duhamel, dans laquelle, alors je vais faire juste un petit panorama des femmes dans la série noire, et bien le premier auteur féminin apparaît en 1950 au numéro 67 de la collection, alors que la collection a été créée en 1945.
Oui, tout à fait.
On attend 5 ans pour avoir une femme.
Tu l'avais expliqué.
Donc c'est l'américaine Gertrude Walker. 3 ans plus tard, 1953, on a Elizabeth Sanksay Holding, avec 2 titres parus la même année. On reparlera de cette autrice. En 1955 et 1957, on a une autre femme, Marty Holland, qui publie 2 titres dans la série noire. Et également en 1957, on a Lee Brackett. Lee Brackett, qui est connue comme scénariste. Elle a travaillé à Hollywood comme scénariste de films policiers assez célèbres, comme Le Grand Sommeil de Howard Hawks. Et puis, en fin de carrière, elle a scénarisé le 2e épisode de la Guerre des Étoiles de Star Wars, qui s'appelle L'Empire contre-attaque.
D'accord.
Voilà, donc une dame qui a eu une longue carrière, à la fois comme romancière et scénariste. Et pour revenir à la série noire, en 1959, on trouve 2 femmes, Dolores Hitchens et Mildred Gordon, qui publient avec son époux, qui s'appelait, devinez comment, Gordon Gordon.
Alors là,
l'imagination sans limite des Américains.
Les parents
comment
sont
je vais l'appeler
même
on va l'appeler Gordon.
Alors donc, à la série noire, finalement, à fin 1959, nous avons seulement 9 titres écrits par des femmes, publiés par Marcel Duhamel, pour un total de 540 titres qui sont parus dans la collection.
Ça s'appelle la portion congrue.
Donc, voilà.
Alors, peut-être qu'ils sont de meilleure qualité que les 500 autres, en fait. On ne sait pas.
Non, il y avait aussi du beau monde.
Je rigole.
Alors, si on fait le tour des concurrents de la série noire, des 2 autres grandes collections policières de l'après-guerre, eh bien, on trouve que c'est mieux quand même. Mm-hmm. Le Masque de la librairie des Champs-Élysées, lui, publie des autrices depuis la création de la collection 1927.
Et c'est 1927, ouais. Le Masque, c'est bien plus ancien.
Agatha Christie qui avait inauguré la collection. Elle a été suivie par plusieurs consoeurs, Patricia Wentworth, Mignon G. Ebrard, Dorothy Sayers et plusieurs autres. Donc, mm-hmm. Les autrices dans la collection Le Masque sont nombreuses et d'accord. Dès l'origine. Et puis, dans la collection Un mystère des presses de la cité, qui elle est apparue en 1949, eh bien, dès le début des années 50, on trouve de nombreuses autrices comme Vera Caspary, N.I.O. Marsh, Mignon Ebrard, qui est déjà dans Le Masque, Dorothy B. Hughes, Margaret Millar, etc. etc. Mm-hmm. Donc, pour ces grandes collections policières, la série noire, c'est vraiment le mauvais élève des grandes collections policières des années 50.
Visiblement.
En ce qui concerne les femmes. Par contre, ces 3 collections sont dépassées par une petite collection éphémère qui est parue dans les années 50 et qui est, elle, triplement féminine, comme je vous l'annonçais.
C'est cette perle rare que tu voulais évoquer, donc.
Donc, cette collection s'appelle Le Ruban Noir.
D'accord.
Et elle a publié 9 romans en 1953-1954. Mmh. Et donc, pourquoi est-elle remarquable? C'est parce qu'elle est dirigée par une femme. Les romans publiés sont écrits par des auteurs féminins et traduits par des femmes.
Alors là, bravo, je
un
dis bravo.
Triplé, n'est-ce pas?
Ça, c'est de l'audace. Hein.
Voilà. Alors,
qui n'a pas payé, semble-t-il, parce que 9 romans, ça ne fait pas beaucoup en 2 ans.
Ouais. C'était peut-être trop précurseur.
Ouais, sans doute.
Alors, on va passer en revue toutes ces femmes en parlant d'abord de la directrice de collection qui s'appelle Germaine Beaumont. Née en 1890, qui a commencé comme protégée de Colette et à écrire des chroniques dans le journal Le Matin, dans lequel écrivait Colette. Et également une autre publication qui s'appelle Les Nouvelles Littéraires. Elle a reçu le prix Renaudot pour son premier roman en 1930, qui s'appelle Piège.
D'accord.
Elle a ensuite été membre du jury pour le prix Femina à partir de 1936. Elle a été traductrice, notamment de grands romanciers comme Truman Capote et Virginia Woolf.
Ah oui, quand même.
Chevalier de la Légion d'honneur en 1949. Et après-guerre, elle va collaborer à des émissions radiophoniques policières, notamment une qui est célèbre, qui s'appelle Les Maîtres du Mystère,
d'accord.
Dont elle est coproductrice avec Pierre Billard. Et ça passait sur la chaîne Paris Inter.
D'accord, qui est devenue France Inter ensuite.
Ouais, c'est ça. Elle a été également critique littéraire à Mystère Magazine de Maurice Renaud. Donc, c'est une personne très bien placée pour parler à la fois de littérature anglo-saxonne et de littérature policière.
Une pointure de l'édition française.
Qui a été choisie donc, pour être la directrice. Quelles sont les autrices qu'elle a choisies? Elle nous annonce « La collection Le Ruban Noir vous révélera les meilleures romancières policières ».
C'est assez top du top,
assez ambitieux.
Le gratin.
Et on se rend compte que toutes les romancières sélectionnées sont anglo-saxonnes. Donc, nous avons 4 Anglaises, une Australienne et 4 Américaines ou États-Uniennes.
Aucune Française, elles n'ont publié aucune.
Il n'y a pas eu de romancière française. Alors, je vais vous faire ça par zone géographique, en commençant par l'Angleterre. Nous avons, alors, je vous avertis, ce n'est pas des gens très, très connus, mais ce qui est intéressant, c'est
les jusqu'à présent, je ne connaissais personne de tout ce que tu as cité depuis le début de l'émission. Hein. Donc, alors, rassurons-nous.
La première s'appelle Nina Bowden. Elle est née en 1925. Et à partir de 1953, elle écrit une demi-douzaine de romans policiers. Et ensuite, elle va se tourner vers un autre type de littérature. À partir de 1960, elle va écrire une cinquantaine de romans et d'ouvrages, essentiellement à destination de la jeunesse, dont certains ont été publiés par l'École des loisirs, donc la célèbre collection à destination des jeunes.
D'accord.
Alors, le roman qui a été publié par Plomb, donc l'éditeur dans la collection Le Ruban Noir, s'appelle « Qui mène le jeu ?» est le premier roman policier écrit par Nina Bowden en 1953. Et c'est l'unique titre dans ce registre-là qui sera traduit en français.
D'accord.
Les autres n'ont pas été traduits. Ceux qui ont été traduits sont uniquement ces romans pour la jeunesse. Voilà. La seconde autrice, c'est Isabella Bain, qui, elle, était infirmière et assistante sociale et qui, au milieu de son travail, a trouvé le temps pour écrire 3 romans policiers qui sont parus en 1947, 1952 et 1956, dont 2 ont un personnage récurrent qui est un avocat qui s'appelle Benedict Breeze. Et 2 de ces romans ont pour décor un hôpital, ce qui n'est pas étonnant.
Logique.
Étant donné la...
Logique.
Voilà.
Alors, étant donné son métier.
Voilà. Alors, le roman qui a été publié dans Le Ruban Noir, qui s'appelle « La mort est aux petits soins », est la première apparition de Benedict Breeze, donc l'avocat récurrent, et se déroule également dans un hôpital. Donc là, vous avez les 2, un beau doublé. Et c'est le seul titre de cette autrice qui a été traduit en français. La troisième s'appelle Joan Morgan. Elle est née en 1905. Elle a été actrice de cinéma à la période du muet.
Wow.
Ensuite, elle s'est reconvertie comme scénariste.
Parce qu'elle avait une voix de trompette, elle ne pouvait pas faire du cinéma.
Il y a beaucoup d'acteurs qui ont pas survécu à l'apparition
du parlant.
Ouais, c'est clair.
Tout à fait. Donc, elle est devenue scénariste, dramaturge et romancière. Et le titre qu'on trouve publié dans le ruban noir s'appelle Bois Gibet, qui est un nom de lieu. C'est l'unique roman dans le domaine criminel que notre autrice a écrit. Et il s'agit en fait de la version romancée d'une authentique affaire criminelle qui s'est déroulée au milieu du XVIIIe siècle.
Ah.
Où, tenez-vous bien, une jeune femme a empoisonné son père parce qu'il refusait de lui laisser épouser l'homme dont elle était amoureuse, mais qui avait un passé assez douteux, voilà, et qui a donc été traîné devant les tribunaux. Voilà ce que nous dit la présentation du ruban noir. Joan Morgan propose pour un meurtre que l'on avait jusqu'ici considéré comme simplement atroce, une explication humaine. Elle fait revivre avec une sensibilité toute féminine la terrible passion qui devait transformer une jeune fille romanesque en folle sanguinaire.
Mmh. Voilà. Ah, il donne envie, en fait, celui-là. Non, c'est vrai.
Je pourrais être le fournir.
C'est vrai. Top.
N'est-ce pas. Dernière autrice anglaise, Nancy Spain. Un peu étrange de s'appeler Nancy Espagne, quand on est anglaise. C'est son vrai nom. Née en 1917, elle a fait des études d'art. Elle est devenue ensuite journaliste pour la presse et la radio. Elle a dirigé une revue féminine où elle rédigeait la critique littéraire. Elle a collaboré aussi au Daily Mail, donc un célèbre quotidien anglais. Elle a commencé dans le domaine du roman policier en 1946 et il y a remporté un certain succès. Elle a écrit une série de 10 romans policiers qui mettent en scène des personnages récurrents. Un couple qui s'appelle Miriam Birdseye et Johnny Duvivienne, qui est tenancier d'une boîte de nuit et qui a un peu de temps pour mener des enquêtes. Notre autrice, Nancy Spain, a aussi écrit des romans pour la jeunesse et des biographies. Alors, je vous lis le pitch de Plomb. Ses dons les plus remarquables sont sa déconcertante et savoureuse franchise, un sens aigu de l'élément burlesque latent dans les circonstances les plus dramatiques, un don d'observation cynique rendu acceptable par la concision et la drôlerie de son style. C'est pas beau comme accroche. Alors, le roman paru dans le ruban noir a un titre un peu façon série noire, puisqu'il s'intitule « Raquette de tennis ». Le jeu de mots infernal.
Les traducteurs qui s'éclatent. Là. Voilà. Ouais.
Mais il y a une explication, parce que c'est une enquête donc, de Johnny de Vivienne dans le milieu du tennis.
Bah oui, bien sûr.
Il y a quand même et il y a du racket, sans doute.
Probablement.
Et c'est donc le seul roman traduit en français de cette autrice.
D'accord.
Voilà. Alors, après l'Angleterre, je vous invite à faire un détour par l'Australie, où nous avons une autrice, mais pas n'importe laquelle. Elle s'appelle Charlotte Jay. Elle est née en 1919 et elle a épousé en 1962 un enseignant qui travaille pour l'UNESCO. Et donc, avec lui, elle va voyager dans de nombreux pays du Moyen-Orient et d'Asie. Et cette expérience-là va lui permettre de... Elle va mettre à profit pour faire le décor dans plusieurs de ses romans. Ça se passe dans des...
Donc ça se passe pas exclusivement en Australie.
Non, pas du tout. Ça voyage pas mal avec elle, à partir de son expérience dans différents pays. Elle, à partir de 1951, elle écrit plusieurs romans de suspense et elle remporte en 1954 le prix du meilleur roman policier de l'année, qui est décerné par la Mystery Writers Association of America.
Ah donc, oui.
Et donc tu dis suspense et non pas suspense.
Ouais.
D'accord, ok. C'est noté.
Alors Charlotte Jay, à partir de 1968, elle va délaisser le style, le roman policier de suspense, ou de suspense, comme on veut, pour écrire des romans plus littéraires. Et à ce moment-là, elle va prendre son nom de femme mariée, qui est Halls. Elle va changer d'identité, en quelque sorte.
Toujours le problème de la littérature de genre, qui est un peu... qui a une sorte d'étiquette infamante. Et quand on veut passer à la littérature sérieuse, on essaie de se décoller ça en changeant de nom de famille, dans son cas.
C'est possible qu'elle ait voulu rompre. Alors, le roman qui est publié dans le ruban noir, qui est aussi le dernier de la collection, s'intitule « La mort frappe aux yeux ». Alors, ce n'est pas son plus connu. Par contre, d'autres romans ont été publiés par la suite dans la collection Le Masque, dont je vous parlais tout à l'heure. Deux autres de ces romans sont parus dans la série Les Reines du Crime. Donc, ce qui montre quand même qu'elle a été reconnue pour son intérêt. Donc, deux autres titres qui sont parus un peu tardivement en France, en 96 et 97. Et l'un des deux, surtout, est remarquable. Il s'intitule « Au cœur de la jungle ». Et c'est justement le roman qui a remporté le prix dont je vous parlais en 1954.
D'accord, ok.
Alors, dans ce roman, en fait, il se déroule en Nouvelle-Guinée. Et une femme enquête sur la mort de son mari, qui est anthropologue, qui s'est déroulée dans des circonstances un peu suspectes.
D'accord.
Et c'est un roman tellement intéressant que Miss Lemon nous le présentera en détail.
D'accord.
Pas aujourd'hui, mais dans une...
Ah non, pas aujourd'hui, c'est sûr. Je vous confirme, ce ne sera pas aujourd'hui.
C'est frustrant, ça. Nous, on pensait que ce serait la chronique d'aujourd'hui.
Mais non, parce qu'il va s'intégrer dans notre thème sur la colonisation.
Et oui,
ok.
Et donc, on le retrouvera, mais prenez note.
On fait juste un petit appel.
On en parlera dans quelques émissions.
De la colonisation comme thème de prochaine émission.
Voilà, donc, une seule autrice en Australie, mais importante. Et maintenant, nous passons aux États-Unis d'Amérique, où nous allons tomber sur des romancières un peu plus connues. La première, c'est Dorothy Salisbury Davis, née en 1916, qui, à partir de la fin des années 40, va écrire des nouvelles et des romans policiers, alors plutôt de suspense psychologique, cette fois, dans lesquels les personnages sont souvent des personnages féminins. Alors, le titre qui se trouve dans notre collection du jour, le ruban noir, s'appelle « La main debout ». Pas « debout », mais « debout ».
Comment ça, « bou », B-O-U-E,
ouais.
Donc là,
qui, en fait, aurait plutôt dû être traduit « la main d'argile ».
Oui,
ça aurait été plus clair.
En anglais, c'est « the clay hand ». Il se déroule dans une région minière du Kentucky.
D'accord.
C'est le premier roman de cette autrice qui a été traduit en français. Et d'après le critique Jacques Baudou, qui est le seul à s'être intéressé à notre collection aujourd'hui, dans son fanzine Enigmatica, eh bien, il considère que ce roman, c'est le chef-d'œuvre de la collection, tout bonnement.
Carrément.
Auquel j'apporterai un petit bémol, c'est malgré une épouvantable traduction.
Oui, mais déjà, le titre laisse présager une mauvaise traduction.
Je la dénonce par Sabine Beritz, dont nous reparlerons tout à l'heure.
C'est pas bien de dénoncer les camarades.
Alors, je vous cite juste deux exemples pour vous situer le contexte. D'abord, bah, cette traductrice a pris idée d'employer l'imparfait du subjonctif pour un style qui est assez...
C'est acrobatique tout ça.
Alors,
c'est vrai.
Je vous cite juste un exemple. Vas-y. Je craignais que vous ne m'eussiez oublié des clairs des personnages.
Alors après, déjà, tu peux pas le faire lire à des jeunes parce qu'il faut pas que ça soit trop compliqué.
Après, ça dépend de la classe sociale de la personne qui dit cette phrase. Hein, on ne sait pas si c'est de la vieille bourgeoisie.
Non, pas du tout. Ce sont des. Et deuxième exemple, eh bien, c'est que la ville d'Ann Arbor au Michigan, eh bien, devient le nom d'un personnage. Parce que la traductrice n'a pas compris.
Mais est-ce qu'elle a lu le livre en le traduisant
Et donc, on lit que la victime s'est rendue chez Ann Arbor.
Ah oui, d'accord.
Qui est en fait un personnage complètement absent de l'histoire. Donc, on se demande pourquoi il allait la voir, etc.
Bon, voilà. Cette chère traductrice devra les oreilles qui sifflent si elle est encore en vie. Hein,
deux exemples de traduction. Serait à reprendre.
Oui, ce que je veux dire, si le livre est très bien, il pourrait peut-être faire l'objet d'une nouvelle traduction.
Sans doute.
Ça serait mieux.
Peut-être.
Alors, on a l'occasion de lire d'autres romans de cette romancière parce que L'aventure criminelle chez Fayard a publié deux autres titres en 59 et 64 et plus récemment Rivage, l'édition Rivage ont publié en 1999 et 2004 deux autres titres de Dorothy Salisbury Davis qui datent de 1970 et 1951. Donc c'est pas une inconnue en France à notre époque. Seconde autrice en provenance des États-Unis, Elizabeth Sanksay Holding, dont, si vous avez suivi mon exposé, je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Pourquoi ? Parce qu'on va la retrouver à la série noire. Donc, elle est née en 1899, elle a écrit des romans sentimentaux d'abord dans les années 20, et à partir de 1929, elle se met à écrire des romans policiers qui mettent en scène un personnage de série, le lieutenant Levy, et également des romans de suspense psychologique et de nos très nombreuses nouvelles. C'est une autrice qui a été très admirée à son époque, notamment par le grand Raymond Chandler et le critique Anthony Boucher, qui admirait son style et ses personnages. Elle a été publiée en France avant Le Ruban Noir, dès 1946, par une petite maison d'édition. C'est passé relativement inaperçu. Mais pour Le Ruban Noir, Germaine Beaumont a choisi un titre qui s'appelle Le Vieux Cheval de Bataille, qui date de 1943. Et il se trouve que la même année où Germaine Beaumont publie ce roman, eh bien, la série noire, comme je le disais tout à l'heure, publie deux autres titres d'Elizabeth Sanksay Holding, La Candide Madame Duff, et un titre qui a été adapté au cinéma en 2000 par Jean-Pierre Mocky, et un autre roman qui s'appelle Au pied du mur, où le diable ne fait pas crédit. Et je rajoute, pour finir sur cette autrice, qu'en 2018, l'édition Baker Street ont publié un autre roman qui est son premier roman policier, donc publié en 1929, qui s'appelle Miasme. Donc voilà, l'occasion de découvrir un peu plus largement l'œuvre de cette autrice. Avant-dernière autrice, Margaret Ann Hubbard, qui elle a écrit des romans historiques, des pièces radiophoniques tirées de contes de fées, ça va être intéressant à écouter, également des romans catholiques pour la jeunesse, un peu moins drôle à lire, et quatre romans policiers entre 1950 et 1966. Alors, dans le roman qu'on trouve dans Le Ruban Noir, il s'intitule « L'assassin prend le voile », et c'est le premier roman publié par Margaret Ann Hubbard, et il se déroule dans une école pour filles, et c'est son seul roman traduit en français. Ce qui est un peu dommage, peut-être parce que dans les autres romans policiers, il y en a un qui met en scène une jeune religieuse qui est fille de policier et qui va mener une enquête. Or, on a toute une tradition d'enquêteurs religieux dans la littérature policière. Le père Brown de Gilbert Chesterton, le recteur Garrick de l'abbé Madec, le frère Boileau de Jacques Ouvard, Sœur Angèle de Henri Catalan, etc. Donc, si on avait traduit un des romans dans lequel apparaît cette religieuse, ben, ça aurait été intéressant.
Et on peut ajouter le héros du Nom de la Rose aussi.
Je ne me souviens plus
de son nom, hein, le fameux roman d'Umberto
Eco. Guillaume Baskerville.
Bravo.
Maître Jérôme.
J'ai gagné quelque chose.
Non.
Bon. Du suspense.
Dernière autrice, Margaret Scherf, née en 1908, qui était, elle, rédactrice dans une maison d'édition qui, à partir de 1940, va écrire des romans policiers d'énigmes cette fois.
Oui, alors c'est différent.
Qui mettent en scène plusieurs héros récurrents et également des romans policiers pour la jeunesse. Elle a notamment participé à la série Alice, signée Caroline Quinn.
Alice.
Sachant que Caroline Quinn, en fait, recouvrait un collectif d'auteurs. Ils signaient tous pareil.
D'accord.
Mais ils n'ont pas été écrits. En fait, Caroline Quinn n'existait pas.
J'ai jamais entendu parler d'Alice. Voilà. Hein,
grande série pour la jeunesse qui était publiée par Hachette.
Bibliothèque verte.
J'ai dû rater ça. Moi, j'étais plutôt le Club des Cinq.
Ouais, ouais, ben, voilà, c'était la même, un peu dans la même veine.
D'accord.
Alors, cette Margaret Schoenf, eh bien, on a eu un de ses romans traduits dans Le Masque dès 1952, et Le Masque en publiera deux autres dans les années 70. Donc, chez Plon, dans Le Ruban Noir, eh bien, on trouve La Mort aux Dents, qui a pour protagoniste quand même un religieux, hein, un révérend, qui est un personnage récurrent dans l'œuvre de Margaret Schoenf, et qui se déroule dans le Montana, où l'autrice s'était installée après la Deuxième Guerre mondiale.
Ah oui, c'est un grand état d'écrivain.
Voilà. Oui,
c'est un état magnifique, enfin, en termes de paysage, c'est extraordinaire.
Pour conclure sur les autrices, eh bien, on se rend compte qu'aucune n'est devenue très célèbre en France.
Disons qu'un ignorant comme moi, on ne connaît aucune.
C'est pas grâce à toi qu'elles sont devenues célèbres, c'est
clair.
Ça qu'on peut dire.
Mais tout de même, quelques-unes mériteraient d'être redécouvertes, notamment Elizabeth Sanksey Holding, Margaret Hubbard, et en particulier, à mon avis, Charlotte Jay. On va essayer, comme je l'annonçais, de la promouvoir dans un prochain épisode de notre émission.
À suivre.
Alors, pour terminer brièvement sur les traductrices, on en trouve 5.
Mm-hmm. Mais tant que tu as dit du mal d'une d'entre elles,
on va la retrouver.
Tu peux parler des autres.
La première, c'est Germaine Beaumont, la directrice de la collection.
D'accord.
Donc je vous l'ai déjà présentée. La seconde, c'est Claudine Chaunet, qui était une poétesse, romancière et journaliste à l'ORTF. Mm-hmm. Et qui a aussi publié des choses très sérieuses chez Segers, Julliard et Albin Michel.
Ah oui, quand même.
Ouais, donc, voilà, vraie maison d'édition.
Sérieux, quoi.
De littérature classique.
La seconde, eh bien, c'est notre victime, et c'est elle qui a traduit le plus grand nombre de romans, parce qu'elle en a 4.
C'est pour ça, elle était débordée, la pauvre.
Sabine Beritz, qui était traductrice à partir de 1929, qu'on trouve aussi chez Gallimard, où elle a traduit notamment Le Facteur sonne toujours deux fois et Assurance sur la mort.
Le fameux roman.
Donc les deux grands romans noirs de James Ken, et ça mériterait peut-être d'aller fouiner pour voir la qualité de ses traductions.
Ouais, exact.
Chez
Après, ça ne m'a pas choqué. Ah, mais c'est chez Gallimard, il y a peut-être d'autres. Moi, la traduction que j'ai lue, que j'ai relue récemment, ça m'a pas choqué.
Elle était peut-être en avance, elle faisait de l'IA avant l'heure. Excusez-moi.
Alors, une autre traductrice, ne riez pas, elle s'appelle Primrose Dubot.
Oh, c'est trop beau, c'est magnifique.
Elle était fille de l'écrivain Charles Dubot, membre de la jeunesse étudiante chrétienne, et elle a fini par épouser un écrivain et traducteur tchèque qui s'appelle Jan Čep.
Pas Primrose, beau comme c'est comme magnifique.
Ouais. Dernière traductrice, Lucienne Escoub, née à la fin du 19e siècle, qui était également journaliste et critique de cinéma. Elle a travaillé comme traductrice dans les années 45 et 50, notamment pour Marcel Duhamel à La Série Noire. On retrouve souvent des passerelles avec la Série Noire. Elle a traduit pour Duhamel plusieurs titres, dont un classique de James Hadley Chase qui est La chair de l'orchidée.
Ah oui, le titre me dit quelque chose, je ne l'ai pas lu, mais
voilà,
le titre me dit quelque chose.
D'accord. Voilà. Donc, pour terminer sur cette collection, je pense que c'est quelque chose à redécouvrir, mais alors malheureusement, aucun des titres que j'ai cités n'a été réédité. Donc, à vous de fouiner ça parmi les ouvrages anciens.
La saison des brocantes est en train de s'installer.
Ouais,
donc vous pouvez toujours
c'est
noter
le moment
quelques
fouiner.
Titres.
Voilà, de la collection.
Peut-être vous aurez cette chance-là.
Alors, on va se reposer un peu en écoutant un petit extrait musical chanté par une femme également.
Home plate, he's waiting for you there. You know,
Voilà, nous avons écouté The Ball Game, le jeu de balle, par Sister Winona Carr.
Auditeur de Canadian Radio, vous écoutez à 23 pas du mystère, votre émission mensuelle consacrée au polar et à la science-fiction. Et le thème d'aujourd'hui, c'est tout ce qui nous intéresse tout le temps, les dames, les femmes. Voilà. On en est où, mon cher Maître Jérôme ?
Eh bien, on va continuer avec une série de chroniques. On va commencer par celle de Nicolas Verdan, si vous voulez bien, qui s'appelle « Virage à la corde ».
Virage à la corde, une chronique de Nicolas Verdan.
Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un ouvrage qui s'appelle « Du sang sur l'asphalte ». Alors on est tout de suite dans le vif du sujet avec ce roman noir de Sarah Gran paru aux éditions du Masque en 2020. Alors on part sur les routes des États-Unis, côte ouest, mais dans une Amérique désenchantée, celle de la première décennie des années 2000. Une Amérique de motels fatigués, d'avenues interminables, de villes sans centre. Et pour Sarah Gran, cette autrice de 5 romans née en 71 à New York, qui fut libraire et bouquiniste, et qui, soit dit en passant, que j'adore lire et dont j'attends toujours un nouveau livre, et qui vit aujourd'hui à Los Angeles, eh bien la voiture cristallise la violence et les pulsions, un peu comme dans Crash de J.G. Ballard, par exemple. Le premier chapitre s'intitule d'ailleurs « L'affaire de l'autoroute infinie », et nous sommes à Oakland en 2011. La narratrice s'exprime à la première personne et on la découvre dans les restes éclatés de sa voiture de location. Une Lincoln blanche modèle 82, précise l'autrice, vient de lui rentrer dedans. Elle a survécu au choc et reprend ses esprits sur une civière d'ambulance. Alors là, je lis un premier extrait. « J'ai repris conscience dans un fracas terrifiant. Mes yeux se sont ouverts dans un éclair de douleur indicible. Je ne voyais rien, hormis une lumière aveuglante. J'ai refermé les yeux, j'avais le souffle court. Souviens-toi, souviens-toi. J'ai dû crier parce que j'ai entendu un cri et quelqu'un m'a pressé la main en disant « Tout va bien, tout va bien. » J'ai cessé de crier. Des pensées m'ont dégringolé dans la tête. Accident. J'avais eu un accident de voiture. Je me suis rappelé une énorme masse métallique enfonçant ma portière et j'ai recommencé à crier. « Chut, calmez-vous », a dit la voix. Une voix d'homme plutôt jeune, sans doute blanc. J'ai distingué d'autres bruits alentour, senti un souffle d'air frais sur mon visage. J'étais à l'extérieur. J'ai entendu un nouveau cri. Pas de moi. « Je reviens », m'a dit la voix. « Vous allez bien, mais n'essayez pas de bouger. » L'homme a lâché ma main et s'est éloigné. On découvre alors que la blessée n'est pas une victime ordinaire. C'est une détective. Une détective privée très particulière, Claire DeWitt. Alors là, je lis encore. J'étais Claire DeWitt, la plus grande détective du monde, et on venait d'essayer de me tuer. J'ai pris une grande inspiration. La nana qui braillait et pissait le sang, je l'avais vue avant l'accrochage. Elle était sur le trottoir au moment de l'impact. Nom de Dieu, avait-elle lâché. Il va la tuer. Il. Mon premier indice. J'ai tâché de me remémorer la Lincoln sans me laisser déborder par le souvenir. C'était une charge directe. Le véhicule avait fondu droit sur moi en visant le siège conducteur. Pas un accident, une tentative de meurtre. Mon deuxième indice, j'ai observé les environs. J'étais sur une avenue non loin de Fruitvale. J'ai tâté mes vêtements. Pas de flingue. Pourquoi ça, pas de flingue? Alors on comprend très vite que dans ce roman, la voiture n'est pas seulement un moyen de transport, c'est une arme, un indice, une signature. Et là, je lis encore. Homme, Lincoln blanche, modèle 82 ou approchant. C'était limité comme point de départ. D'autres souvenirs de ma personne et de tout ce qui lui était arrivé avaient ressurgi pendant ma course. J'étais détective, j'élucidais des mystères, j'avais des ennemis. Pourtant, aujourd'hui était un jour particulièrement compliqué pour me tuer. D'abord, comme j'avais exposé ma voiture quelques semaines plus tôt, je roulais en voiture de location. Or donc, des tas de gens voulaient ma mort. La question était, qui voulait ma mort aujourd'hui? Mais Claire DeWitt est une détective à sa manière. Elle n'hésite pas, elle aussi, à voler des voitures, même après un accident. Je lis. J'ai gobé deux comprimés, je les ai avalés à sec et je suis parti voler une voiture. La première que j'ai fracturée était une BMW récente et pas moyen de la faire démarrer. La deuxième, à laquelle je me suis attaqué, était une Ford Taurus. Je n'ai même pas réussi à m'y introduire sans casser une vitre. La troisième était une Honda de 95. Je l'ai ouverte et démarrée en une douzaine de minutes. À l'avenir, il faudrait que je me mette à jour sur les nouvelles technologies automobiles. Pour le moment, j'étais bien content de ma Honda. Je suis retourné sur les lieux de l'accident. Le secteur était à peu près dégagé, seulement marqué par un petit tas de débris de verre et de plastique et une sinistre odeur de caoutchouc brûlé. Alors dans du sang sur l'asphalte, la route est omniprésente. Et quand la détective se retrouve à Los Angeles, elle vit dans un motel. Encore un extrait. Je logeais dans un motel sur un tronçon inhospitalier d'Hollywood Boulevard. Ça ne me changeait guère de ma chambre à San Francisco. Au lieu de Chinatown, j'étais dans Thaïtown. Et il n'y avait pas de chat. Apparemment, me retrouver au milieu de gens qui ne parlaient pas ma langue était ma meilleure solution. Ma chambre coûtait $39 la nuit à San Francisco, 36 à Los Angeles. Et celle de Los Angeles se voulait agréable d'une manière qui la rendait encore plus moche. Béni soient les petites grâces. Et comme souvent dans le roman noir américain, la route devient un espace social. Et je lis encore, ce soir-là, j'ai longé Sunset. J'ai traversé Hollywood, puis West Hollywood jusqu'à Beverly Hills. J'ai continué. Le trottoir s'est arrêté et bientôt j'étais dans les collines, à avancer sur le bas-côté, en espérant ne pas me faire renverser par une Porsche. Là-haut, des gens ont commencé à m'interpeller depuis leur voiture. Alors, je ne vais pas vous résumer l'intrigue, mais sachez que Du sang sur l'asphalte est un livre composé de trois histoires, trois époques, trois atmosphères noires, proches des meilleures séries télé, je dirais, avec des images très BD. Un livre atypique aux antipodes des thrillers surgelés et pré-cuits qui, faut le dire, encombrent les rayons des best-sellers. Je lis encore, et pour conclure, j'ai regardé par la vitre. La longue route noire semblait ne jamais devoir finir. Toute destination toujours hors d'atteinte, le moment présent toujours gâché, le bonheur toujours plus loin, jamais maintenant. Et on a continué à rouler sur la longue route noire qui nous ramenait à la maison.
Eh bien, c'est au tour de Geek Patrick qui va nous emmener à Chromoville. La chronique de Geek Patrick.
Alors, Geek Patrick, je vais te défier. Tu comptes donc nous parler d'un récit écrit par une femme ?
Oui, oui, parce que jamais je n'oserais affronter le courroux de Maître Jérôme en ne respectant pas ce thème. Donc c'est ce côté un peu masculiniste de Maître Jérôme qui m'a contraint à lire un roman d'une femme. C'est quand même extraordinaire, ça.
Tu préfères lutter contre les femmes que Maître Jérôme.
Voilà, exactement.
Pourtant, on est plus nombreuses que vous. Hein. Mais bon, vas-y.
Je vais vous parler d'un roman écrit par une autrice française. J'aime bien le mot autrice. Joël Vrinteberg. Je n'ai jamais trop su comment on prononçait son nom. Vrinteberg. Bon, elle a commencé à publier à partir du début des années 80, avec un certain succès. Elle a reçu ainsi de nombreux prix littéraires, dont le Grand Prix de la science-fiction française en 1989, pour un roman intitulé « Le créateur chimérique ».
Et donc, tu vas nous parler de ce titre-là, je pense.
Voilà, tu me connais très bien, je vais parler d'autre chose, parce que c'est comme ça, je suis contrariant, Geek Patrick est par nature contrariant. Je vais vous parler d'un roman écrit avant celui-ci, qui s'appelle « Chromoville ». Chromo, ça veut dire quoi, Miss Lemon?
Alors déjà, ça ne veut pas dire Cro-Magnon, sinon ce serait Chroma.
Exact.
Oh, on va dire que c'est le cercle chromatique, la couleur sans doute.
Bravo, bravo. Miss Lemon égale Miss Marple, tu es la meilleure. L'histoire se passe dans un futur lointain et indéterminé. On est dans un monde où apparemment la vie se concentre dans des villes entièrement verticales, sans doute pour des raisons de guerre à large échelle, hein, d'accord. Et donc toute la population s'est recentrée dans ces villes. En conséquence, il n'est pas très fréquent de sortir à l'extérieur, c'est même quelque chose de très angoissant pour les habitants. Mais cette verticalité a aussi une dimension hiérarchique. On y apprend que c'est un savant qui, en collaboration avec les militaires, a eu l'idée de rebâtir la société, donc sous-entendu après une guerre, dans une ville totalement verticale, ce qui est plus facile à défendre sur un plan militaire. Mais le savant y a ajouté son ingrédient personnel. C'est une société politiquement tout aussi verticale composée en castes. Et chaque caste est symbolisée par une couleur, nous y voilà, Chromoville. Tout en haut de la hiérarchie dominent les Noirs, avec leur chef qui s'appelle le hiérarque. Ensuite viennent les Blancs, qui sont les prêtres. Suivent alors 8 niveaux, que je vous fais rapidement. Les multis, les verts, les mauves, les bruns, les bleus, les jaunes, les orangés. Et enfin, tout en bas de l'échelle, les rouges. Chaque couleur correspond à une activité professionnelle. Les mauves sont ainsi des urbanistes. Les rouges sont les prolétaires, c'est pour ça qu'ils sont en bas de l'échelle. Les bleus sont les marchands. Et les verts sont non pas des écolos, mais les flics chargés du maintien de l'ordre.
Je l'aurais plutôt inversé, c'est-à-dire mis les bleus chargés de l'ordre.
C'est vrai, comme quoi.
Ok, un monde tout en couleurs, mais ça n'a pas l'air très gai tout ça. Alors qu'est-ce qui s'y passe ?
Il se passe des choses, mais en fait, il faut avancer dans le roman pour comprendre que quelque chose, bon, mis à part le système de caste, bien sûr, mais quelque chose d'autre cloche dans ce monde. Et on finit par comprendre que ce qui cloche, c'est la façon dont les femmes sont traitées. On découvre ainsi que dès qu'elles sont pubères, et tant qu'elles ne sont pas mariées, elles doivent, tenez-vous bien, accepter de tout homme qu'elles croisent ses exigences sexuelles.
Ah oui,
non, mais
c'est
n'importe
très...
quoi. Donc ça doit être un peu rude.
Ça doit être long pour aller faire ses courses.
Exactement. Ouais. On découvre aussi qu'elles n'ont strictement aucun pouvoir. Et que les seules femmes à avoir une forme de prestige sont les étaïres, qui sont des sortes de prostituées de luxe qui leur permettent de partager le confort de vie des hautes castes. Et donc, il va y avoir de la révolte dans l'air, d'accord. Avant de parler de cette révolte, je vais vous parler d'autres éléments qui vont faire toute la richesse de ce roman. Il y a des personnages aux capacités étonnantes. Ainsi, parmi les Blancs, qui sont les prêtres, je le rappelle, certains jeunes sont sélectionnés en fonction de leur pouvoir stupéfiant. Alors, c'est uniquement des garçons, parce qu'aucune femme ne peut être prêtre, là. On voit bien puis on voit bien quand même l'inspiration catholique. On les appelle, ces jeunes en question, les corèges. Ils ont une tête à la taille un peu supérieur à la moyenne, mais surtout, ils peuvent transformer leur corps en n'importe quoi. Même en des éléments comme le vent, le brouillard, ils peuvent se téléporter où bon leur semble. Bref, ils ont un pouvoir absolument colossal qui explique que la caste des Noirs les garde, via les Blancs, sous un strict contrôle. Enfin, il existe une dernière catégorie d'êtres vivants dont on apprendra vers la fin du roman. C'est un secret, ne le répétez pas.
Non, spoilez pas.
Qu'ils sont des êtres humains issus de manipulations scientifiques, génétiques. On les appelle les Saïs et ils ont des apparences mi-humaines, mi-félines. Ils ne parlent pas, ils semblent servir d'animaux domestiques, leur origine est très mystérieuse, mais ils vont avoir leur importance que je ne dévoilerai pas. Vous avez qu'à lire le roman Bande de Feignants. Voilà.
Bon, en tout cas, c'est un ensemble très riche et varié.
Oui, oui, ce roman est très étonnant parce qu'il réussit à nous peindre une société très originale et à nous proposer une histoire solide en seulement 220 pages, ce qui aujourd'hui est très peu courant. Hein. Les auteurs de science-fiction ont plutôt tendance à faire des pavés gigantesques en 2, 3, 4, 5 tomes,
vrai, ouais.
etc., etc. Et on sent très bien que cette histoire aurait facilement pu faire l'objet de ce genre de développement. Hein. Vraiment, vu la richesse de la société, il n'y avait aucun problème.
Oui, mais c'est une autrice française et pas américaine, donc elle n'a pas forcément envie de faire...
C'était les années 80, c'était pas encore cette
rigole.
Mode des gros pavés,
je
en fait.
Hein. Bon, alors, vas-tu finir par nous dire un petit peu
je vous ai promis,
de quoi ça parle.
Une histoire de révolte.
Tu dis que c'est rapide, le roman, mais toi, tu tardes finalement à nous expliquer
parce
tout ça.
Le roman, il tarde, en fait, à se dévoiler. C'est vraiment très étonnant. C'est-à-dire qu'il y a une vraie révolte des femmes qui va advenir pour abattre cette dictature patriarcale.
Ah,
mais ça prend
même.
Du temps à venir clairement dans l'histoire. Elles vont être aidées par quelques hommes, parce qu'on découvre en passant que l'homosexualité est totalement interdite, ce qui va motiver certains hommes de haut niveau à accepter d'entrer dans le combat. Mais tout ça est traité de façon comme un peu désinvolte. C'est vraiment surprenant, ce roman. À mesure que je voyais le nombre de qui me séparait de la fin se réduire, je me disais, mais comment l'autrice, Joëlle Wintoberg, va faire pour arriver à boucler cette histoire de rébellion qui me semblait pas tellement avancée? Eh bien, il faut reconnaître que Joëlle Wintoberg a très bien su boucler son histoire avec un dénouement qui réserve son lot de surprises.
Et sans que Geek Patrick nous dévoile tout.
Eh oui, parce que je suis devenu maître Geek Patrick sous l'exemple et sous l'influence de maître Jérôme.
D'accord.
Je ne spoile plus.
Et donc, quelle est ta conclusion?
Je recommande donc chaudement la découverte de cette autrice française, Joëlle Wintoberg, dont je n'avais rien lu et dont ce roman m'a vraiment convaincu.
La chronique de Geek Patrick.
Laissons à présent une femme, Miss Lemon, nous parler d'une autre femme, Miss Marple.
L'étoffe d'un héros. Comme vous l'avez deviné, cette chronique sur les femmes me réjouit. Alors, je vous ai concocté un hommage particulier pour deux personnages féminins dont le profil vraiment atypique ne laissait absolument pas penser de prime abord que leur qualité d'héroïne leur permettrait de se vouer corps et âme, si je puis dire, à des enquêtes policières, aux grandes dames de leur entourage et malgré la risée que leur comportement peut provoquer. Donc j'ai nommé l'actrice Margaret Rutherford pour son incarnation remarquable et redoutable à l'écran de Miss Marple. Je vous conseille les petits chefs-d'œuvre des années 60. Et son contrepoint américain ou sa contrepointe américaine, la chasseuse de primes du New Jersey des années 90, j'ai nommé Stephanie Plum dans le premier roman de son auteur. Moi, j'aime bien dire auteur pour les femmes quand même.
Mais
avec
tu as bien raison.
Janet Evanovich, qui donc en 1994 écrit le premier roman des aventures de Stephanie Plum, parce qu'après il y en aura probablement 25 ou 30, je ne sais plus. La prime. Et en anglais, One for the Money. Alors, tout oppose ces deux personnes, bien sûr, l'âge, l'éducation, la génération, leurs besoins et leurs objectifs. Mais alors, elles ont en commun de se lancer vaille que vaille dans la recherche de toutes sortes d'informations. Elles sont débordées par cela. Et finalement, leur naïveté, leur capacité d'adaptation, leur détermination, leur opiniâtreté et leur ruse très féminine, je dois bien le reconnaître, parce que les hommes n'y penseraient pas et donc se font entourlouper. Et de cette manière-là, elles arrivent à leur fin. Donc je vous propose de débattre de tout ça juste après le petit jingle. Le morceau que vous venez d'écouter est un morceau de choix issu des films de Miss Marple. Donc ça plante tout à fait le décor avec une musique des années 60 qui mêle un clavecin synthétisé à un rythme yéyé. Et ça, à mon avis, souligne un décalage entre l'Angleterre du modernisme post-reconstruction représenté par l'inspecteur Cradock qui est un trentenaire très dynamique et puis un arrêt dans le temps avec les habitudes d'avant la Seconde Guerre mondiale de Miss Marple qui vit dans une ville carte postale avec des maisons à colombages, un pub typique et l'heure du thé traditionnelle. Pour Stephanie Plum, de son côté, donc nous avons la représentation d'une société américaine que j'appellerais le melting pot traditionnel avec une petite ville qui s'appelle Trenton dans le New Jersey des années 90. Pour l'aspect textile, qui est quand même l'objectif de notre chronique, nous avons dans les sacs de ces dames des ustensiles divers et variés pour Miss Marple qui manie aussi bien l'épée que la cravache ou le club de golf, mais aussi les fameux pots and pans, comprenez les ustensiles de cuisine qui lui permettent, au travers de ses multiples aventures, de se déguiser et de proposer des tenues et toutes sortes d'équipements qui vont de la cavalière, la femme de ménage, et puis surtout, elle a une cape qu'elle ajuste à la manière d'une super-héroïne. Stephanie Plum, de son côté, on a une mode d'époque, donc années 90, avec un tailleur serré, décollant, quelle que soit la température. Or, il fait très très chaud dans l'ouvrage La Prime. Et puis des talons, ou bien, quand elle est décontractée, on a la tenue typique des années 90, c'est-à-dire un short cycliste en lycra noir, un t-shirt trop grand, voire informe, aux couleurs d'une équipe de foot ou de baseball, qui est la tenue de rigueur, et puis aussi une coupe de cheveux avec des cheveux légèrement ondulés, et puis du maquillage, quelquefois exagéré en fonction de ce qu'elle veut se procurer comme information. Alors dans son sac, c'est plus redoutable, il y a un pistolet, des menottes, une bombe paralysante en cas d'agression pour neutraliser les candidats à arrestation. On va commencer par Miss Marple, comme on dit en anglais, Edge Before Beauty. Donc cette demoiselle respectable inspire la confiance et fait des quêtes pour les œuvres de charité, plus ou moins drôles en fait dans les films. Et puis, soudain, elle se révèle excentrique et jusqu'au boutiste lorsqu'elle est persuadée qu'un crime a été commis. Bien entendu, le jeune inspecteur Cradock et puis tous les bien-pensants de sa commune lui conseillent de freiner ses lectures de romans policiers. Et lorsqu'il lui dit ça, évidemment, il la pique au vif. Et là, elle est persuadée qu'on la prend pour une vieille folle. Et donc, elle se moque d'eux en disant « Dotty old me », c'est-à-dire « Je suis une vieille folle ». Et elle établit des plans d'action redoutables et très borderline, en fait, pour pouvoir arriver à comprendre et à démêler les fils de l'enquête. Donc, elle se rend en général sur place. Elle utilise la technique du pied dans la porte pour pouvoir obliger les des personnes à témoigner, donc je vous conseille vivement de ce passage mémorable dans les films. Elle se déguise pour décrocher un emploi ou un rôle clé dans une affaire. Elle essaye aussi de passer incognito, alors jusque-là ça marche bien, jusqu'à ce que débarque l'inspecteur Cradock, qui à chaque fois reste éberlué parce qu'elle est là où vraiment il ne l'attend pas. Dans son sillage, elle entraîne le bon et dévoué Mr. Stringer, qui n'existe absolument pas dans les romans d'Agatha Christie. Et Mr. Stringer l'aide dans ses aventures et, par admiration et respect pour Miss Marple, ne la contredit jamais directement, mais utilise le questionnement ou la suggestion très habile à la manière anglaise pour essayer de la dissuader ou en tout cas de limiter l'étendue de ses interventions parce que parfois elle court quand même des dangers. Dans son besoin de prouver qu'un simple accident est un crime, rien ne fait reculer Miss Marple devant les situations à régler. On a une Miss Marple donc à cheval, gouvernante et aussi actrice de théâtre. Sa force réside dans le fait qu'elle réussit toujours à décrocher le job dans l'environnement propice à l'espionnage de toutes ses activités criminelles et ne se laisse pas intimider quoi qu'il arrive, elle enfile sa cape de justicière. Stéphanie Plum est un peu pareille, c'est-à-dire qu'elle ne recule devant rien. Elle était vendeuse de lingerie en gros près de l'aéroport de Newark dans le New Jersey. Cette information est intéressante parce que elle ne se laisse pas impressionner non plus par les hommes qui ont des intentions douteuses parce qu'elle a une bonne expérience dans la vente de lingerie et elle sait démonter les têtes de Delco des voitures car il s'agit d'une pratique courante à Newark pour éviter de se faire voler sa voiture sur les parkings locaux. Elle a perdu son emploi depuis 6 mois, n'a plus de voiture car elle était saisie, a dû vendre ses meubles pour pouvoir continuer à payer son loyer et elle cherche désespérément un emploi. Elle va donc chez son cousin qui possède une agence de cautionnement et après négociation devient chasseuse de primes. Donc elle arrive à s'auto-convaincre qu'elle peut arriver à arrêter des personnes plus ou moins dangereuses qui sont en liberté sous caution et qui ne se présentent pas aux avis de justice. Donc elle décrit qu'elle a les qualités suivantes: flexibilité, acceptabilité et créativité. Alors à partir de là, dans la prime, commence un roman de filature, de tentatives plus ou moins réussies d'arrestation, de rencontres de pros, et puis de gens un petit peu moins pros, de gens violents aussi, et puis il y a beaucoup de hauts et de bas. Elle met quand même sa vie en danger. Donc ce personnage de Stéphanie Plum est très représentatif de son époque et de sa culture, c'est-à-dire qu'elle a la confiance en soi qu'on inculte aux Américains dès le plus jeune âge, le just do it, l'apprentissage par l'expérience, c'est-à-dire je tombe, je remonte à cheval, et le retour sur expérience, ça n'a pas marché, c'est pas grave, je vais recommencer. Sous ses airs de fille naïve, qui n'anticipe jamais rien et qui vit au jour le jour, elle soulève pourtant des thématiques qui sont toujours d'actualité, c'est-à-dire la condition de la femme, la violence et le harcèlement et les menaces faites aux femmes, donc qui a été on ne peut plus actuelle ces dernières années, et aussi le rejet de l'intrusion de la femme dans la profession masculine, et puis les moyens de défense. Par ailleurs, elle soulève aussi le point de l'omniprésence de l'argent, qui est typiquement américain. On gagne de l'argent ou on perd son job. Business is business. Elle soulève aussi le point des armes à feu, mises à disposition quand même du grand public. Elle liste aussi le niveau de criminalité ambiant dans cette petite ville de Trenton. Elle parle également de la pollution, avec un côté un petit peu fataliste, car New Jersey semble faire les frais de sa proximité avec New York. Donc il y a l'aéroport de Newark, des usines très polluantes, et puis aussi il fait très chaud et l'air est empli d'émanations de carburant. Ne pas avoir la clim, c'est vraiment pour les losers dont elle fait partie. Et puis, elle remarque aussi que des poubelles de recyclage sont mises en place. C'est pas très joli, mais c'est quand même une bonne idée. Puis, elle représente aussi le microcosme américain. Tout se passe autour de sa ville natale, en vase clos. Que ce soit les criminels, les commerçants, les policiers, tout ce petit monde est connu entre eux parce qu'en fait, ils ont été plus ou moins sur les bancs de l'école ensemble. Et puis, il n'y a pas d'informations de niveau national et encore moins international, ce qui est très américain. En conclusion, après bien des tribulations, nos héroïnes peuvent recevoir le palmarès dans notre chronique L'étoffe des héros pour leur bravoure, leur tour de force pour entrer dans un monde réservé aux hommes et leur ténacité pour ce qu'on appellerait en VO de leur capacité à close the case, aller jusqu'au bout pour trouver les criminels. Alors je tenais à faire dans cette chronique un petit clin d'œil à Nicolas et à ses petits bolides parce que nous avons quand même dans les Miss Marple une calèche tirée par des chevaux de trait qui conduit Miss Marple. Puis Mr. Stringer a quand même un tricycle adulte de type le fin 19e siècle. Donc je vous engage à visionner, j'ai mis un lien sur le podcast, donc je vous engage à visionner pour voir un petit peu le type de tricycle dont il est question. Et Stéphanie Plum conduit une Mazda Miata décapotable qui est rapidement saisie qu'elle remplace en urgence pour 500$ par une Chevrolet Nova qui est complètement rouillée et taguée. Et puis finalement, elle réquisitionne un 4x4 Cherokee pour rouler dans de meilleures conditions. Et puis sa mère essaye de lui trouver un soupirant qui, lui, a une Pontiac Bonneville. Voilà, salut Nicolas. Et sur l'auteur de Stéphanie Plum, Jeannette Evanovitch a écrit en fait plus de 30 aventures de Stéphanie Plum. À sa sortie en 1994, le roman One for the Money, dont je viens de faire la chronique, a obtenu plusieurs prix, dont le prix Agatha, qui récompense des romans policiers écrits suivant une technique a priori proche de celle d'Agatha Christie. Elle a également eu le prix Edgar Allan Poe, et puis d'autres prix attribués par des associations américaines qui décernent des prix à des romans policiers. J'espère que cette chronique vous aura donné envie de découvrir nos deux aventurières au cœur vaillant, et à très bientôt.
Chères auditrices, chers auditeurs, romancières, enquêtrices, chasseurs de primes, eh bien, il est temps de nous quitter. Vous pouvez consulter, comme d'habitude, notre podcast sur radio-calade.fr, rubrique émissions culturelles. Vous allez retrouver toutes les informations nécessaires et pouvoir écouter et réécouter notre émission. On vous donne rendez-vous le mois prochain où nous allons aborder des sujets variés. Hein, on ne vous révèle pas tout de suite.
Un peu de suspense, que diable, voilà, donnant de suspense.
C'est le fait, Geek Patrick. Voilà, que nous allons glaner hors des sentiers battus. Merci à vous. À
merci,
bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Calade.
À 23 pas du mystère.
Balade à travers le polar, la science-fiction et l'aventure, hors des sentiers battus.
Calade, ma radio. Sur le 100.9 et radio-calade.fr.